Vous êtes sur RTL.
Billet.
RTL Matin.
Jérôme Florin.
Bonjour Jean-Claude Mailly.
Bonjour.
Ancien secrétaire général de Force Ouvrière, vous l'avez été pendant 14 ans. Et vous publiez un livre de souvenirs, manifs et chuchotements chez Flammarion. Vous deviez livrer votre vérité après votre départ assez douloureux de FO.
Oui, c'est un des aspects du livre. Oui, j'ai voulu expliquer ce qu'il s'était passé au moment du départ.
En
2018, en interne à FO, tout simplement parce que quand je voyais des militants de terrain après mon départ, beaucoup n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Donc c'était ma version des faits, mais c'est une partie du livre, oui, mais je tenais à le faire. Oui.
Vous parlez de trahison en interne, de coups de couteau dans le dos, oui. de rivaux qui avancent masqués. On vous a reproché en interne à l'époque d'être trop conciliant avec Emmanuel Macron sur les ordonnances de la loi travail, notamment.
Oui, enfin, ce n'était pas une décision individuelle, c'était une décision collective du bureau confédéral. On s'était dit tout simplement qu'il venait d'être élu et d'une certaine manière, ce qu'on appelle plus aujourd'hui l'état de grâce, mais pendant les 3-4 premiers mois, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Donc, et que les gens n'étaient pas prêts à se mobiliser au cas où. Donc on a décidé de demander et d'obtenir une vraie concertation à l'époque avec, non seulement avec lui, mais surtout avec la ministre du Travail. Et il faut reconnaître que cette concertation a eu lieu à l'époque.
Muriel Pénicaud, qui sort justement un livre là, il est sorti hier je crois, elle explique qu'à l'époque, avec la CFDT, vous aviez accompagné cette réforme en l'amendant, justement parce qu'on sortait de la présidentielle et oui. De cette victoire contre Marine Le Pen, et qu'on était dans une période encore assez fragile.
Oui, bien sûr, et on a fait bouger, on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, loin s'en faut, mais on a fait bouger beaucoup de choses. Moi, je me souviens avoir un point clé que j'avais défendu auprès d'elle et auprès du président de la République, c'était de maintenir les négociations nationales au niveau des branches, dans la métallurgie, la chimie, la banque, etc., parce que c'est ce qui assure un minimum de régulation économique et sociale. C'était pas gagné au départ, mais ça, on l'a obtenu, par exemple.
Alors, votre livre regorge d'anecdotes et de portraits, parfois au vitriol. Vous avez côtoyé, négocié avec 4 présidents. Lequel vous a plus marqué, pour lequel vous avez le plus de respect ?
On respecte toujours le président, mais c'est vrai que c'est au-delà des accords ou des désaccords, parce qu'il y en a eu avec tous les présidents, des accords ou des désaccords, est-ce qu'on arrivait à se parler franchement, se dire les choses clairement ? Et je dois reconnaître que là où ça s'est le mieux passé, c'était à la fois avec Jacques Chirac. On était dans une autre période où, à l'époque, le président de la République laissait beaucoup de marge de manœuvre à son premier ministre. Et avec Sarkozy, les 3 premières années.
C'est étonnant, vous entendez très bien avec les hommes de droite. Vous dites beaucoup de bien de Nicolas Sarkozy, dites beaucoup de bien de Christian Estrosi, à l'époque ministre de l'Industrie, de Xavier Bertrand.
Oui.
Et puis alors, ceux de gauche, qu'est-ce qu'ils prennent hein?
Ça dépend, c'est peut-être de la déception aussi François par rapport Hollande. À la politique qu'ils faisaient, mais c'est peut-être ça également. Mais c'est au-delà même de la politique, si vous voulez. Je me souviens qu'avec Sarkozy, au moins les 3 premières années, c'était plus compliqué les 2 dernières. Mais les 3 premières années, quand vous voyez Sarkozy, on discutait, à la fin c'est oui, c'est non, mais on a une réponse. Avec François Hollande, j'en avais jamais.
François Hollande, cynique, égocentrique et pas très franc du collier.
Oui, c'est ça. Moi, je me souviens des discussions avec lui pendant ce qu'on avait appelé la loi travail, la loi El Khomri. Qui était en fait plus une loi Macron qu'une loi El Khomri à l'époque. Bon. Mais poser des questions, je sortais du bureau, je ne savais pas.
Avec Ségolène Royal, il y a un moment terrible. Hein, vous racontez, vous la rencontrez une fois en 2007, elle ne vous écoute pas, elle regarde l'écran de télé derrière, et vous sortez de là.
Je sors de là en disant, c'est moi qui... C'était pendant la campagne présidentielle à l'époque, au bout d'un moment, je voyais que ça ne servait à rien. Donc je lui ai dit, écoutez, on arrête là, ce n'est pas la peine de continuer, on va perdre son temps. Et je dis, mais vous inquiétez pas, je vais sortir et dire, on a eu une réunion démocratique. Etc. Voilà, j'ai rien dit, mais je ne l'ai jamais revu.
La droite parle mieux aux ouvriers, aux travailleurs que la gauche ?
Non, ce n'est pas qu'elle parle mieux aux ouvriers, aux travailleurs. Je veux dire, il y a peut-être souvent un plus grand respect vis-à-vis des interlocuteurs sociaux. Que parfois, il y a une tendance du côté de la gauche à considérer qu'ils savent mieux ce qu'il faut pour les ouvriers que les syndicats.
Alors, Emmanuel Macron, parlons d'Emmanuel Macron.
Oui.
Vous parlez d'un homme chaleureux, qui a la bise facile et le tutoiement facile. Mais alors, il a cru qu'il pouvait tout faire sans écouter personne, écrivez-vous.
Oui.
Et est-ce que vous n'êtes pas finalement l'une des incarnations de ce vieux monde qu'il a voulu balayer ?
Ouais, mais il n'a pas encore réussi, hein, entre nous. Hein. C'est pas gagné, en tous les cas, s'il a essayé. Il a essayé, je pense. Parce que, y compris pendant la campagne présidentielle, il avait dit notamment, les syndicats, leur place, c'est dans l'entreprise et pas ailleurs. Pas au niveau national. Considérant que tout ce qui était national, c'était l'intérêt général et de sa responsabilité en tant que président. J'ai cru qu'il avait changé. après son élection, notamment sur les ordonnances, où il a accepté une vraie concertation, de discuter, de faire bouger des choses, etc.
Je dis, vous écoutait ?
Oui, à cette époque-là, il a écouté. Je dis, voilà, il est rentré vite dans le costume du président et il a compris, en fait, qu'il fallait discuter. Et je pense que tout a tourné au moment de la réforme de la SNCF, où, rappelez-vous, il y a eu des grèves perlées. Bon, il a réussi à passer son projet et là, il a dû se dire, bon, ça y est, je peux tout faire. Et après, les relations se sont d'ailleurs tendues avec les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales. Et on a eu les Gilets jaunes.
Alors, et quelques mois avant les Gilets jaunes, en avril 2018, le 11, vous écrivez dans l'édito du magazine de FO, l'herbe est sèche, la moindre étincelle peut mettre le feu. Oui. Vous avez un peu vu venir les Gilets jaunes.
Je ne savais pas que ça allait être les Gilets jaunes, pour être clair. Mais je sentais bien, parce que quand je me déplaçais très souvent, quand j'étais en responsabilité, au moins deux fois par semaine, visiter des usines, des administrations, et j'avais senti qu'il y avait une colère qui était en train de prendre à différents endroits. Et c'est ça, l'image que j'avais voulu prendre, c'est l'herbe est sèche, et il faudrait une moindre connerie, d'une certaine manière, pouvait mettre le feu. Et finalement, ça s'est traduit avec les Gilets jaunes.
Entre nous, Jean-Claude Mailly, maintenant que vous êtes libre, il y a deux réformes qui sont au point mort, qui sont très importantes, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut les faire aujourd'hui?
Écoutez, moi, à titre personnel, quand je regarde la réforme de l'assurance chômage, je laisserai tomber. Vous voyez bien, à chaque fois qu'on sort des statistiques...
Elle semble plus avancée que la réforme des retraites, par ailleurs.
Oui, les décrets sont sortis. Alors à chaque fois, ils sont en train d'amender parce que quand des études sortent en disant ça va être une catastrophe, 1,5 million de personnes qui vont perdre des droits, qui plus est en période de pandémie, ils sont en train de bouger encore les lignes. Mais il ferait mieux de la laisser tomber. C'est une erreur. C'est évident. Sur la réforme des retraites, pour le moment, on n'en parle plus, même si la France a réinscrit ça dans l'agenda au niveau européen, dans l'agenda pour 2027. Mais en même temps, elle avance sans le dire. Je vais donner un seul exemple sans rentrer dans la technique. Les caisses de retraite complémentaires, aujourd'hui, prélèvent les cotisations et versent les prestations, les retraites complémentaires. On est en train de vouloir transférer ça aux URSSAF, à la Sécurité sociale. Ce qui veut dire une forme de centralisation. Et encore une fois, remettre en cause le rôle des partenaires sociaux. Donc ça avance masqué, si vous voulez, d'une certaine manière. Et ça aussi, moi, je pense que c'était pas le moment. C'est une usine à gaz, cette réforme.
Sur le rôle des partenaires sociaux, et là encore, on va mesurer votre degré de liberté... Les dernières élections professionnelles, ça a fait un four dans les TPE.
Oui.
5,4% de participation. Seuls 11% des salariés aujourd'hui sont syndiqués. Est-ce que les syndicats ont encore une raison d'être aujourd'hui?
Oui, bien sûr qu'ils ont une raison d'être. Alors les TPE, il faut savoir que... Alors ça a encore baissé par rapport à la dernière fois, parce que c'est aussi un des effets de la crise sanitaire. Les gens ne travaillaient pas, etc. Et bon, il faudra revoir ce système pour les TPE. Mais dans les grandes entreprises, les salariés votent entre 65 et 85% aux élections sociales. Donc il y a une vraie représentativité syndicale. On mesure cette
représentation. 11% des salariés syndiqués.
Non mais syndiqués. Oui, mais ça serait trop long à expliquer. Mais c'est dû à notre système. Vous savez, liberté, égalité, fraternité. Égalité républicaine, c'est assurer un minimum d'égalité de droits. On négocie beaucoup de choses, ou on négociait beaucoup de choses au niveau national. En France, que vous soyez syndiqué, non syndiqué, salarié d'une TPE, d'une multinationale, vous perdez votre boulot, vous avez les mêmes droits. Dans d'autres pays, c'est différent. Pour être bénéficié d'un système d'assurance chômage, il faut être syndiqué.
Je vais reposer ma question autrement. Comment redonner aux gens l'envie d'adhérer à un syndicat?
Il y a deux choses. D'abord, en France comme ailleurs, on est dans une période de crise et c'est pas favorable à la syndicat.
10-11% d'adhésion, ça fait à peu près 10 ans.
Oui, la crise, ça fait 20 ans qu'elle dure, chez nous comme ailleurs. Même en Allemagne, le taux de syndicalisation est plus fort, mais il a baissé. Deuxièmement, il y a encore des déserts syndicaux. Les déserts syndicaux, c'est les toutes petites entreprises, c'est ce qu'on appelle la tech, où il y a moins... Et puis, tout le problème ce qui ne sont pas des salariés, de ceux qui travaillent pour les plateformes. Voilà, ça, c'est trois terrains à conquérir pour les syndicats.
Comment?
Ça veut dire que...
Donner envie? Est-ce que les syndicats n'ont pas une image de vieux truc un peu dépassé, poussiéreux?
Non, moi je ne crois pas ça. Au moment où c'est vrai que les syndicats, quels qu'ils soient, ont tendance à être considérés comme les médias, comme les partis politiques, comme une institution qu'il faut remettre en cause. C'est vrai que ça existe, ça, dans la société. Bon. Après, vous savez, les gens se syndiquent pourquoi? Ils se syndiquent, je ne parle pas de militer, pour se syndiquer, c'est quand ils considèrent que dans l'entreprise, le syndicat a obtenu quelque chose. Or, c'est vrai qu'on est dans une période, chez nous comme ailleurs, où obtenir quelque chose aujourd'hui, c'est compliqué.
Jean-Claude Mailly, on reproche souvent aux politiques d'être déconnectés du terrain. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas des dirigeants syndicaux? Vous avez fait carrière à FO. Vous avez connu la vraie vie d'une entreprise? Non.
Si, j'ai commencé à travailler avant d'être à FO.
Ça a pas duré longtemps.
Quand vous êtes élu, vous avez des CDD de 3 ans. Hein, c'est, moi, je n'avais pas programmé tout ça. Quand je suis rentré comme permanent, je pensais que ça allait être 2-3 ans. Vous voyez, oui, après,
bon, Jondel suis... a dit reste
oui,
là.
Oui, voilà, reste.
Sera utile.
Donc je suis resté. Et puis et ça me plaisait, il oui. faut être honnête, sinon je serais parti. Bon, mais après, quand j'étais élu, vous avez des CDD de 3 ans. Hein, vous pouvez être remis en cause à n'importe quel moment. Et effectivement, j'ai senti tout de suite qu'il était important. Quand vous êtes secrétaire général, vous êtes le porte-parole de l'organisation, vous avez les contacts avec le patronat, avec le gouvernement, etc. Mais il fallait absolument, toutes les semaines, régulièrement, être sur le terrain, aller discuter avec les salariés, faire des réunions.
Jean-Claude Mailly, on est à un an de la présidentielle.
Oui.
Comment jugez-vous le climat aujourd'hui? Est-ce que l'herbe est toujours sèche, comme vous l'aviez écrit à l'époque? Est-ce qu'il ne suffit
pas? Je sens une colère rentrée, oui. Genre, je ne sais pas si elle s'exprimera d'une manière ou d'une autre. Ce sera aussi fonction de la sortie de crise, la sortie de la crise sanitaire, des conséquences économiques et sociales. Mais je crains, moi, une présidentielle dure. Violente, non pas physiquement, mais violente, on voit déjà, hein, rien qu'avec les régionales, ce qui se passe. Alors ça promet pour la présidentielle. Hein, c'est vraiment une crainte que j'ai aujourd'hui.
Qui serait en mesure, à vos yeux, d'incarner vos idées en 2022?
Oh, ça je les laisse faire.
Hein. Bah non,
je
ne
vais pas faire de politique.
Un peu, Jean-Claude
non,
Mailly.
Mais moi, ce qui me semble important, au-delà de, c'est pas une question d'individu, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est pas pour un candidat, quel qu'il soit, c'est pas d'avoir un programme avec 150-200 mesures que personne ne lira, c'est de fixer un cap, qu'il y ait un projet. Et après, c'est comme...
Mais ils ont tous un cap et un projet?
Non. Non, non. Ils ont des listes de programmes. On va augmenter ceci, on va baisser ceci, on va faire cela. Ce que les gens ne regardent pas. Par contre, vers où on veut vous emmener. Après, vous savez, l'itinéraire, il peut changer en fonction des événements. Mais au moins, où on veut aller, et ça, on ne le sait pas.
Vous donnerez un avis? On vous entendra pendant la campagne?
Oh, écoutez, non, je ne donnerai pas un avis pour voter pour quelqu'un. Moi, si on me demande mon avis, je peux le donner en off à certains, ça c'est autre chose. Et je n'ai pas d'exclusive. Mais non, 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 non.
Vous pourriez voter Jean-Luc Mélenchon?
Non, pour être franc, non.
Non. D'accord. Vous n'avez jamais fait de la politique? Vous n'avez jamais, disons, passé. Parce que vous avez
été longtemps. J'ai été longtemps adhérent du Parti Socialiste, je ne le suis plus aujourd'hui. Oui, j'ai eu des appels du pied dans ma région d'origine, à différentes entreprises, oui.
Vous êtes embourgeoisé aujourd'hui, Jean-Claude Mailly, vous avez fondé votre société de conseil, vous travaillez avec Raymond Soubi, un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière?
Mais pas du tout, je ne suis pas passé. Vous savez, je n'ai pas changé, moi. Moi, je suis un social-démocrate, si je veux aller vite, réformiste et social-démocrate. Je vois les choses sous un autre angle. Alors, je ne vais pas m'occuper de structuration et de plans sociaux, c'est évident. Hein, mais vous savez, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans ce qu'on appelle tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, et c'est là-dessus que je travaille en ce moment.
Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly. Manif et chuchotement, c'est le titre.